Vous écoutez, on lit pour vous.
Danger sur le chemin de l'école. Un dossier de Marie-Ève Maurras, Daphné Cameron et Chloé Bourquin, paru le 23 septembre 2025 dans la presse. Se rendre à l'école à pied ne devrait pas être risqué. Pourtant, des centaines d'enfants ont été victimes d'accidents dans les dernières années, même si les intersections les plus dangereuses à proximité des écoles de la métropole sont connues. Blessés sur le chemin de l'école. Près de 500 enfants ont été blessés par des véhicules au cours des 5 dernières années près des écoles de la province. Certains écoliers doivent emprunter des trajets plus risqués, qui traversent des rues comportant plusieurs voies de circulation ou sans passage piétonnier. La presse a obtenu la liste des intersections les plus dangereuses aux abords des écoles de Montréal, mais aussi des écoles vers lesquelles il est le plus risqué de se rendre. Devant l'école primaire Saint-Joseph, à Anjou, des panneaux installés au milieu du boulevard Châteauneuf pour obliger les conducteurs à ralentir ont visiblement été accrochés par des voitures et sont penchés. Ces panneaux ne sont pas tant utiles, dit en soupirant Émilie Boisclair, qui attend son fils de 8 ans à la sortie de l'école. Le monde s'en fout. Les gens ne font pas leur arrêt. Les vitesses ne sont jamais vraiment respectées, confirme Magali Vachon-Nadeau, enseignante à l'école. Le matin, les gens sont pressés, ils ne font pas attention et la sécurité des enfants est compromise. Qu'il y ait une brigadière ou non. Cette école primaire a été identifiée par Shabnam Abdoulaye, chercheuse postdoctorale à Polytechnique Montréal, comme l'une de celles autour desquelles il y a le plus d'intersections dangereuses pour les piétons. Pour déterminer les intersections les plus risquées pour les enfants, Shabnam Adolaï a examiné les rues dans un rayon de 800 mètres des écoles, la distance que peut habituellement parcourir à pied un élève du primaire. Puis, d'autres variables ont été examinées, comme les mesures d'apaisement de la circulation, le contrôle de la circulation, par exemple les feux de circulation ou les arrêts, la présence d'une piste cyclable, le nombre de voies à l'intersection et la visibilité. Normalement, dans l'analyse utilisée par les municipalités, on se concentre sur le nombre de collisions. Mais on peut avoir des intersections très dangereuses, où il n'y en a pas eu. C'est si dangereux que les gens ne les utilisent pas pour traverser, dit Mme Abdoulaye, qui est également cofondatrice de l'entreprise Safe Mobility, qui aide les municipalités à déterminer les intersections dangereuses. Le travail qu'elle fait permet de cibler les endroits problématiques avant qu'une collision ne survienne. Quartier défavorisé, risque accru. Les élèves qui vivent dans des arrondissements plus défavorisés marchent davantage pour aller à l'école, et c'est dans ces mêmes quartiers que se trouvent les écoles autour desquelles il y a le plus d'intersections dangereuses, explique Mme Abdoulaye. Plusieurs de ces écoles sont dans l'est de l'île de Montréal, à Anjou, et dans le quartier Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. L'école primaire Léonard de Vinci fait également partie de cette liste. Elle est aussi située tout près du boulevard métropolitain. Bien des automobilistes sont pressés d'accéder à l'autoroute et n'hésitent pas à dépasser la limite de vitesse, fixée à 30 km/h dans certaines zones. Une brigadière qui travaille à proximité de cette école du quartier Saint-Michel confirme qu'elle se fait faire des doigts d'honneur par des automobilistes pressés. En 2024, pas moins de 96 enfants de 5 à 17 ans ont été blessés dans la province dans des secteurs scolaires pendant les heures d'école, rapporte la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ. En 2023, il y en a eu 100. Le président du syndicat des brigadiers de la Ville de Montréal estime que les automobilistes sont vraiment dangereux. Mettons que le brigadier a sa pancarte. Souvent, ils approchent près du brigadier et ils klaxonnent, illustre Marc Babin, qui représente un peu plus de 600 personnes. Ses membres se font parfois « envoyer chier, le doigt dans les airs », déplore-t-il. Sylvie, mère d'un enfant qui fréquente la maternelle à l'école Léonard de Vinci, dénonce le fait que les voitures ne s'arrêtent tout simplement pas au passage pour piétons dans la rue Villeray. N'est-ce pas une rue plutôt tranquille? Pas le matin et le soir, oh non! Il y a beaucoup de va-et-vient, je trouve ça dangereux, observe-t-elle. Ados au cellulaire. Quartier Hunsick, angle du boulevard Henri-Bourassa et de l'avenue Péloquin. Il est 15h20. La cloche va bientôt sonner à l'école Saint-Paul-de-la-Croix, située à environ 500 mètres au sud de cette intersection, qui figure au palmarès des plus dangereuses, près d'une école primaire à Montréal. Le boulevard Henri-Bourassa sépare deux quartiers résidentiels. Lors de notre passage, seulement 3 élèves de l'école primaire ont franchi l'intersection. En revanche, des dizaines et des dizaines d'adolescents vêtus de l'uniforme de l'école secondaire Sophie Barra l'ont traversé. Tous, à une exception près, les yeux vissés sur leur cellulaire. Un grand nombre n'ont même pas levé les yeux de l'écran de leur téléphone une seule fois. Pourtant, pour passer du sud au nord, il faut traverser 3 voies, un terre-plein, puis 2 autres voies. Il n'y a ni traverse piétonne, ni feu de circulation, ni panneau d'arrêt. Il y a une voie réservée aux autobus, mais elle est barrée pour des travaux de construction. C'est l'heure de pointe et de nombreux véhicules effectuent des demi-tours d'est en ouest. On voit 2 pics de collision dans l'âge des enfants, explique Marie-Soleil Cloutier, professeure titulaire à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, et directrice du laboratoire piéton et espace urbain. Le premier survient entre 5 et 7 ans. Là, souvent, ils n'ont pas toute la maturité cognitive pour prendre de bonnes décisions. Juger du trafic qui s'en vient, de la vitesse des voitures, explique la géographe spécialisée en sécurité routière. Le deuxième s'observe entre 11 et 13 ans, lors de la période de transition vers le secondaire. « On leur donne plus de lousse », dit Mme Cloutier. « Ils vont à l'école secondaire par eux-mêmes en marchant ou marchent pour aller à l'autobus ou au métro. Et là, c'est l'expérience qui leur manque. » Ces 2 pics statistiques ont aussi été observés en Europe et aux États-Unis. La docteure Liane Franzblow, coordonnatrice en traumatologie à l'hôpital de Montréal pour enfants, confirme que son établissement voit beaucoup d'élèves du secondaire qui ont été happés par des véhicules. La majorité des blessures ne sont pas graves, mais on en a des graves qui se retrouvent aux soins intensifs. Ça dépend de la vitesse de la voiture. On peut avoir des traumatismes crâniens, des grandes fractures, relate la docteure Franzblow. Des brigadiers pour les écoles secondaires? Charlie Shine, 15 ans, a été happé à l'automne 2024 à l'intersection de l'avenue Westminster et du chemin Elsley, à Montréal-Ouest. Le matin de l'accident, il marchait vers son école secondaire, Royal West, avec 2 amis. Avec sa mère, médecin intensiviste pédiatrique à l'hôpital de Montréal pour enfants, il milite pour la mise en place de brigadiers scolaires aux intersections dangereuses, près des écoles secondaires. D'entrée de jeu, Charlie explique avoir emprunté le corridor identifié comme étant sûr par l'école. Lorsqu'il a été happé, il était sur une traverse piétonne. Il n'avait pas son téléphone et n'écoutait pas de musique. « J'ai traversé l'intersection », explique-t-il. « J'ai regardé avant pour les autos et elles étaient toutes arrêtées. J'ai commencé à marcher et quand j'étais rendu à la moitié de l'intersection, j'ai tourné ma tête et j'ai vu qu'il y avait une voiture qui fonçait sur moi. Le conducteur aurait été aveuglé par le soleil. Par chance, Charlie s'en est tiré avec des ecchymoses. Il croit que la présence d'un brigadier aurait pu changer la donne. » À la suite de l'accident, sa mère, la docteure Samara Zavalkov, a tenté de faire des démarches pour la mise en place d'un brigadier scolaire à cette intersection. Il nous a été dit par le SPVM qu'on n'avait pas le droit de donner un brigadier à une école secondaire, déplore-t-elle. La médecin, qui travaille aux soins intensifs, est souvent témoin de la gravité des blessures causées par les collisions et croit que l'accident de son fils devrait servir de signal d'alarme. La prochaine collision pourrait être fatale. L'idée de dire aux adolescents « Fais plus attention, ce n'est pas une solution. La solution doit être dans le système, dans la structure », insiste-t-elle. Vous écoutez « Danger sur le chemin de l'école », un dossier de Marie-Ève Moras, Daphné Cameron et Chloé Bourquin, paru le 23 septembre 2025 dans la presse. C'est une question de vie ou de mort. À Montréal, la majorité des collisions graves ou mortelles impliquant un enfant surviennent aux intersections. Pourtant, des milliers d'automobilistes enfreignent chaque année un règlement qui vise à assurer la visibilité des petits piétons. L'interdiction de se stationner à moins de 5 mètres d'un coin de rue. Les agents de stationnement en font désormais une priorité et le nombre de constats pour cette infraction est en constante augmentation depuis 5 ans. 10h15, intersection Cartier et Doyon. Max, agent de stationnement, vient à peine de commencer son quart de travail dans l'est de l'arrondissement de Ville-Marie. Une Subaru noire est garée à moins d'un mètre de l'arrondi du coin. Une peluche mauve traîne sur le tableau de bord. Le Code de sécurité routière du Québec interdit le stationnement à moins de 5 mètres des intersections, notamment dans le but d'assurer la visibilité des piétons qui s'y engagent. Puisqu'ils sont plus petits que les véhicules, les enfants du primaire ont particulièrement besoin que cette règle soit respectée. À Montréal, les automobilistes sont très nombreux à l'enfreindre. En 2024, 28 156 constats ont été remis à ce sujet par l'Agence de mobilité durable de Montréal. Un sommet. C'est un bond énorme comparativement aux 8 426 constats délivrés à la création de l'agence en 2020. Max prend des photos du véhicule. Elles seront versées en preuve au dossier. L'homme de 57 ans imprime ensuite une contravention à l'aide d'un appareil portatif et la fixe sous l'essuie-glace. $186. C'est la première de plusieurs qu'il rédigera pour cette infraction durant les 2 heures où la presse l'a suivi. Favoriser la visibilité. La règle des 5 mètres est souvent méconnue. On a augmenté nos interventions pour libérer au maximum les intersections, explique le directeur général de l'Agence de mobilité durable de Montréal, Laurent Chevreau, au sujet de la hausse des constats. C'est un enjeu extrêmement stratégique pour la sécurité, dit-il. C'est ce qui fait en sorte qu'un piéton qui va traverser va être vu ou ne va pas être vu par un automobiliste. Donc, c'est une question de vie ou de mort, carrément. Dans la métropole, 67 % des 49 collisions graves ou mortelles impliquant des enfants à pied ou à vélo, 0 à 17 ans, survenus entre 2018 et 2022, ont lieu à une intersection, rapporte le plan d'action 2025-2027, Vision zéro décès et blessés graves, de la Ville de Montréal. Intuitivement, dit M. Chevreau, je pense que ça doit être très rare que quelqu'un tourne lorsqu'il y a quelqu'un qui est en train de traverser, s'il peut le voir. Donc, la plupart du temps, c'est qu'il ne le voit pas. S'il ne le voit pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque la visibilité. Se stationner, un calvaire. Max, qui nous a demandé de taire son nom de famille pour des raisons de confidentialité, se déplace d'un seul coin de rue. À l'angle Cartier et Logan, 2 voitures sont garées à l'intérieur des 5 mètres interdits, à l'ombre de la fameuse pancarte blanche montrant le pictogramme d'un enfant qui traverse la rue en courant après un ballon. Le premier véhicule se trouve à peine à quelques centimètres des lignes blanches de la traverse piétonne. Deuxième contravention. De l'autre côté de la rue, la voiture est stationnée à environ 3 mètres du coin, évalue Max en comptant ses pas au sol. Indulgent, il ne donne pas de constat. Durant notre tournée, il en distribuera uniquement aux cas les plus flagrants. Sinon, on ferait juste ça, résume-t-il. Nous reprenons la route. Peu de temps après, Max repère une voiture immobilisée à une intersection. Il fait clignoter son voyant lumineux pour prévenir le conducteur qu'il est garé dans une zone interdite. À l'intérieur, le conducteur, Robert Breton de la Rive-Sud, explique qu'il attend son frère qui l'a accompagné à un rendez-vous médical en compagnie de sa belle-sœur, Lynn Suren. « Il n'en a plus de stationnement à Montréal », déplore M. Breton. « C'est un problème pour le citoyen transitoire. »« C'est un calvaire », ajoute Mme Suren. Je ne peux même pas te dire c'est quand la dernière fois que je suis venue à Montréal pour voir Montréal, dit Lynn Suren. Dans ce cas, les 5 mètres d'intersection servent en quelque sorte de débarcadère. S'il y a un towing qui arrive, un camion de pompiers, un policier, on est capable de partir. Ça, je le sais, je suis capable d'être conscient que je ne suis pas à ma place. La question, c'est pourquoi je suis obligée de faire ça? Parce qu'il n'y a rien de disponible, explique M. Breton. Il s'en tire avec un avertissement. Quand la tragédie apporte le changement. 10h56. Nous sommes rendus à l'intersection des rues de Rouen et d'Orion. Un VUS noir est immobilisé sur la traverse piétonne. En biais, une voiture compacte est très proche de l'autre passage marqué par des lignes jaunes. 2 contraventions sont remises. Il y a 3 écoles primaires dans la zone où patrouille Max. Légèrement au nord de son secteur se trouve l'école Jean-Baptiste Meyer. C'est l'établissement que fréquentait la petite Maria Lejankivska, une réfugiée ukrainienne de 7 ans, lorsqu'elle s'est fait happer mortellement en décembre 2022 sur le chemin de l'école. À notre suggestion, Max s'y rend. Visiblement, la tragédie a transformé les abords de l'école. Plusieurs zones où il est interdit de stationner sont hachurées en jaune au sol. « C'est la première fois que je vois cela », dit l'agent de stationnement au sujet du marquage. « Ça serait l'idéal d'avoir ça dans toutes les zones scolaires et autour des hôpitaux. » Malgré cela, une motocyclette s'est stationnée dans un endroit interdit. Contravention. Dans l'heure suivante, nous intercepterons un homme qui dort dans sa voiture, garée à l'intérieur des 5 mètres, une Tesla stationnée à côté d'un panneau, arrêt interdit, et même une voiture avec un canot sur un toit qui bloque une traverse piétonne. Un obstacle pour les petits, et même les grands. Afin de sensibiliser les automobilistes, l'Agence de mobilité durable de Montréal a aussi mené une campagne dans les quartiers Villeray et Rosemont. Le message « Ne stationnez pas ici, nous voulons être visibles » a été peint au sol dans des zones de 5 mètres aux intersections. Souvent, les citoyens ne comprennent pas les objectifs des règlements, observe Laurent Chevreau. S'il y a des réglementations, c'est pour une raison, dit-il, et très souvent, c'est pour la sécurité. C'était Danger sur le chemin de l'école. Un dossier de Marie-Ève Maurras, Daphné Cameron et Chloé Bourquin, paru le 23 septembre 2025 dans la presse.
Chantal Petitclerc, mise knock-out par un trottoir montréalais. Un texte de Patrick Lagacé, publié le 24 novembre 2025 dans La Presse. Rouler à Montréal est hasardeux. Les automobilistes et les cyclistes le savent. Les premiers sont nombreux à devoir payer cher en pneus crevés et suspensions défoncées, gracieuseté des nids de poules. Les deuxièmes se cassent la gueule régulièrement à cause d'une crevasse ou d'un renflement de la chaussée. J'ajoute à cette liste les personnes en fauteuil roulant. La sénatrice et championne paralympique Chantal Petitclerc sait depuis toujours que les trottoirs sont aussi un danger pour une personne qui, comme elle, se déplace en fauteuil roulant. Citation: quand je roule à Montréal, je ne peux avoir une seconde d'inattention. Il faut vraiment que je regarde devant moi, au sol, pour éviter que ma roue s'encastre dans une fente du trottoir ou de la rue. Fin de citation. Chantal Petitclerc a toujours connu ce danger, et le 31 octobre dernier, elle l'a ressenti dans sa chair. En cette soirée de l'Halloween, avec des amis, elle accompagnait son fils pour une collecte de bonbons dans la rue Saint-Hubert, près d'Ontario. Et elle a eu, pendant 5 secondes, l'imprudence de rouler sans regarder le trottoir devant elle. Je roulais avec mon fils, émerveillé par les enfants en costume d'Halloween. J'ai osé, pendant 5 secondes, regarder autour de moi et non pas ce qui était devant mes roues. 5 secondes de trop. Chantal Petitclerc. La roue du fauteuil roulant de Chantal Petitclerc s'est incrustée dans une cavité du trottoir. Le fauteuil s'est arrêté brusquement et Mme Petitclerc a été éjectée de son fauteuil. Et la championne paralympique est tombée sur le trottoir, face première. Laure Frisson, la sœur d'une amie voisine de Chantal Petitclerc, m'a raconté la scène. Citation: le nid de poule était impossible à voir, à détecter. Les petites roues à l'avant se bloquent et Chantal est littéralement éjectée comme une poupée de chiffon. Elle a un impact direct sur son visage, sur le sol. La chute a été tellement rapide qu'elle n'a pas pu anticiper et se protéger avec les mains. Fin de citation. Chantal Petitclerc m'a envoyé un message 3 jours après cet accident pour m'inviter à la contacter afin de parler des difficultés à se déplacer à Montréal quand on vit avec une mobilité réduite. Citation: si cela m'arrive à moi, une athlète paralympique, forte et expérimentée dans mes déplacements, imaginez un instant ce que vivent au quotidien les personnes dont la mobilité est encore plus précaire. Se déplacer ne devrait pas ressembler à une épreuve d'obstacle où l'on doit constamment fixer le sol par peur de la prochaine embûche. Fin de citation. La sénatrice m'a aussi envoyé 2 photos d'elle prises quelques heures après que son visage a encaissé le choc sur ce trottoir lézardé. Madame Petitclerc ressemble à une boxeuse qui aurait affronté un adversaire 2 fois plus grande et lourde qu'elle. Je cite Laure Frisson encore. L'impact a engendré un très important hématome périorbitaire gauche. La rapidité, la force et la vitesse de l'impact auraient pu engendrer une atteinte oculaire, nerveuse ou dentaire. Le traumatisme crânien a été sévère et aurait pu être source d'un segment intracérébral. L'hématome peut laisser à terme des séquelles esthétiques, car sa résorption complète n'est pas assurée. Fin de citation. Si vous trouvez le diagnostic de Mme Frisson très précis, il l'est. Le hasard veut qu'elle soit, en France, chirurgienne maxillofaciale spécialisée en reconstruction faciale. Du côté de la ville de Montréal, le porte-parole, Hugo Bourgoin, m'a dit que la municipalité est, citation, « de tout cœur » avec Mme Petitclerc. qu'une équipe s'est rendue sur place après ma demande d'entrevue pour procéder aux réparations nécessaires et que le trottoir, citation, sera reconstruit quand les conditions météorologiques le permettront, le printemps prochain, fin de citation. Chantal Petitclerc passe une partie de sa vie à Ottawa, au centre-ville. À vue de nez, elle estime qu'il est plus facile et moins dangereux de se déplacer en fauteuil roulant à Ottawa qu'à Montréal. Rouler en fauteuil à Montréal, ça ne pardonne pas. Il faut toujours regarder le sol devant toi, tellement il y a des fentes, des trous. Je ne peux pas regarder la personne qui marche avec moi, à mes côtés. Je ferai des chutes 2-3 fois par semaine. Chantal Petitclerc. Sans compter les nombreux autres obstacles à sa mobilité qu'elle rencontre tous les jours. La sénatrice Petitclerc m'a donné 3 exemples d'obstacles à sa mobilité. 1. Quand elle est allée voter aux élections municipales, le bureau était aux habitations Jeanne-Mance, rue Ontario. Citation, « Ils ont enlevé l'asphalte devant le local. C'est sur le gravier. Je ne peux pas rouler là-dedans. Mon chum a dû m'aider. Il y a une rampe, mais le dénivelé est trop élevé. Je ne peux pas monter dessus. On parle de mon droit de vote. » Fin de citation. 2. Les nombreux chantiers font apparaître toutes sortes d'obstacles sur les trottoirs. Citation. On installe les panneaux de signalisation sur les trottoirs. Ça les bloque. Il n'y a pas de rampe pour détourner les piétons. L'impact, pour des personnes comme moi, est disproportionné. Fin de citation. 3. Des modules pour enfants du parc La Fontaine ont été refaits à neuf. Chantal Petitclerc se faisait une fête d'y aller avec son fils, surtout en voyant la rampe d'accès. Citation. Mais en arrivant au module, le sol n'est pas en gazon artificiel. Il est en copeaux de bois. Je ne peux pas me déplacer là-dedans. Fin de citation. C'est l'effet cumulatif qui l'a poussé à faire cette sortie dans la presse après cette chute qui a laissé son visage stupéfié. Tu paies des taxes, tu devrais être capable de circuler comme tout le monde. Ton accès à ta ville devrait être le même que pour tout le monde, fauteuil ou pas. Et le mauvais entretien d'une ville, comme ce trottoir où la roue de mon fauteuil s'est coincée, a un impact démesuré pour une partie de la population, dont ceux en fauteuil roulant. Chantal Petitclerc. Ce n'est pas normal, souligne Chantal Petitclerc, que les trottoirs de Montréal soient, guillemets, une loterie dangereuse, fin des guillemets, où la malchance peut, en un instant, changer une vie. Citation. Ces infrastructures défaillantes mettent en danger les gens que nous avons la responsabilité de protéger. Et elle rappelle cruellement qu'à Montréal, la sécurité et le droit de circuler ne sont pas garantis pour les gens en situation de handicap. Fin de citation. C'était Chantal Petitclerc, mise knock-out par un trottoir montréalais. Un texte de Patrick Lagacé, publié le 24 novembre 2025 dans La Presse.
Comment l'évolution en est-elle venue à faire pousser des doigts ? Un texte de Frédéric Bourigeau, paru le 17 septembre 2025 dans Le Devoir. Comment l'évolution en est-elle venue à faire pousser des doigts ? Une étude révèle que leur origine est à chercher au sein du cloaque des poissons, l'organe regroupant les systèmes intestinal, excréteur et reproducteur. Le cloaque plutôt que les nageoires. L'idée a de quoi étonner, car depuis 30 ans, les gènes nécessaires à la fabrication de nos doigts sont connus et sont les mêmes que ceux ayant permis le développement des nageoires des poissons. Mais les gènes ne sont que des ouvriers qui obéissent à des ordres. Alors, qui a donné l'ordre ? Dans le génome, il existe d'immenses morceaux d'ADN dont la fonction est de décider du fonctionnement de chaque gène. Quand est-ce qu'on l'active? Quand est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on en met plus? Est-ce qu'on en met moins? C'est ce qu'on appelle une région régulatrice. Développe auprès de l'agence France Presse Denis Duboul, professeur du Collège de France et professeur honoraire à la Faculté des sciences de l'Université de Genève. Il est co-auteur d'une étude publiée par la revue Nature qui cherche à comprendre comment les poissons ont évolué pour, il y a à peu près 400 millions d'années, commencer à sortir de l'eau et coloniser la terre ferme en devenant des vertébrés avec des doigts. Cette équipe internationale, pilotée par l'Université de Genève, UNIGE, avec l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, le Collège de France et les universités de Harvard et de Chicago, a d'abord repéré une région régulatrice commune aux poissons et aux souris, à l'origine du développement des nageoires et des membres des souris. Puis, pour la première fois, ils ont été en mesure de l'ôter à leur génome. Cela a été rendu possible par le développement de la technique du CRISPR, K9, sorte de ciseau moléculaire permettant l'édition d'un génome qui a valu à la Française Emmanuelle Charpentier et à l'Américaine Jennifer Doudna le prix Nobel de chimie en 2020. On a enlevé cette grande région de l'ADN du poisson et on n'a rien vu comme conséquence pour les nageoires, explique Denis Duboul. Pourquoi cette région est là si, quand on l'enlève, elle ne fait rien dans la nageoire? En fait, on s'est aperçu qu'elle enlevait l'expression de ces gènes dans le cloaque. Autrement dit, une région régulatrice du génome, initialement dédiée à la formation du cloaque des poissons, a été recyclée par l'évolution pour guider le développement des doigts chez les vertébrés terrestres. C'est un nouveau niveau de régulation qui a été recyclé, soulignent les chercheurs, ouvrant la voie à de nouvelles recherches et interrogations quant au mécanisme de l'évolution. Le point commun entre le cloaque et les doigts est qu'ils représentent des parties terminales. Parfois la fin de tube dans le système digestif, parfois la fin des pieds ou des mains, soit les doigts. Tous deux marquent donc la fin de quelque chose, explique Aurélie Intermann, ex-doctorante de l'UNIGE, désormais postdoctorante à l'Institut Stowers aux USA, et co-autrice de l'étude réalisée dans le cadre de son doctorat. Quand nos ancêtres, les grands poissons, ont commencé à coloniser le milieu terrestre, le début de notre aventure, ces doigts sont apparus car il y avait un terrain sur lequel l'évolution a pu jouer pour pouvoir démarrer ses gènes dans la partie la plus distante, les nageoires, et ça fait des doigts, conclut le professeur Duboul. C'était « Comment l'évolution en est-elle venue à faire pousser les doigts ?» un texte de Frédéric Borigo, paru le 17 septembre 2025 dans Le Devoir.